Il parle beaucoup de bonheur dans ses livres, n'est-ce pas? Si vous lisez Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, il parle beaucoup de bonheur. Et la Bible parle beaucoup de bonheur. Et Jésus ordonne même d'être heureux. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Moi, je ne suis pas francophone. Vous qui êtes francophone, c'est un conseil, ça, ou c'est un ordre? Un ordre, hein? Réjouissez-vous. Ce n'est pas un autre qui doit vous faire réjouir. C'est quelque chose que nous devons faire nous-mêmes. Et c'est un ordre. Alors, pas de chrétiens avec des longs visages. D'accord? Dans toutes les religions, vous n'avez qu'à regarder. Dans beaucoup d'églises, à la mosquée, chez les bouddhistes, les hindous, long visage. Moi, j'ai été élevé dans une église où il était interdit de rire. Je me suis converti depuis. Réjouissez-vous, soyez un autre dans l'allégresse. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens avec des longs visages? Chrétien triste. Eh bien, parce que, comme c'est aussi le roi Salomon qui le dit, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Vous êtes d'accord? Oui. Jésus reconnaît cela. Il reconnaît cela. Mais il promet heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc, même au milieu des afflictions, un chrétien, beaucoup plus qu'un non-chrétien, peut connaître la joie. Nous reviendrons là-dessus plusieurs fois au cours de ces messages. Alors, comment être heureux, joyeux, au milieu de la détresse? Tout le monde peut être joyeux quand le soleil brille, n'est-ce pas? Mais au milieu des tempêtes, c'est plus difficile. Et comment est-ce que nous pouvons être joyeux, heureux, au milieu de la détresse? Eh bien, en gérant bien nos émotions. Pas en les supprimant, pas en les reniant, mais en les gérant. Nous allons ce matin regarder 5 émotions différentes. L'anxiété, déception, peur, honte, dépression. Il y a beaucoup plus d'émotions, bien sûr. Mais les leçons et les principes que je propose de partager avec vous ce matin sont non seulement applicables à ces 5 émotions-là, mais à toutes les émotions. Mais avant de commencer à commenter chaque émotion individuellement, d'abord, le principe de base qui permet à chaque chrétien de gérer ses émotions, toutes ses émotions, de façon positive et bénie. Notre exemple sera Jésus-Christ. Un homme sans émotion? Non, au contraire. Combien de fois lisons-nous dans les évangiles « Jésus fut ému » Mais il a bien géré ses émotions. Il est vrai que il a aussi expérimenté des émotions très difficiles, des émotions très douloureuses, telles que, par exemple, la déception. Il pleure sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Je ne sais pas si vous entendez ce que moi j'entends dans cette parole de Jésus, la déception. Il est déçu, n'est-ce pas? Il aurait tellement voulu bénir Jérusalem, mais Jérusalem n'a pas voulu. On entend aussi ses émotions quand il pleure devant le tombeau de Lazare. Connaissez l'histoire. Nous entendons sa tristesse, sa peur dans le jardin de Gethsemane. Mon père, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et à Golgotha, une émotion excessivement difficile, il faut l'expérimenter pour la comprendre. L'émotion de la solitude. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus gère ses émotions. Il complète sa prière dans le jardin de Gethsémané, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et à Golgotha, à la croix, il ne se laisse point dominer par la haine et l'amertume contre les Juifs et les Romains. Au contraire, Père, pardonne-leur. Il ne se laisse non plus pas dominer par une autre émotion, la pitié de soi-même. Non, il s'occupe pas de lui-même, mais des autres. Femme, voilà ton fils. Au brigand, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et Jésus gère ses émotions, il reste en contrôle. Malgré toutes les souffrances physiques, psychologiques, émotionnelles, sentimentales, spirituelles, qu'il souffre à la croix. Et à la fin des fins, les Juifs et les Romains ne lui ôtent pas la vie, ils donnent sa vie. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors, quel est son secret? Quel est le secret qui permet au Seigneur de gérer ses émotions de façon si positive et qui nous permet de suivre son exemple? Je pense que son secret est révélé dans l'Épître aux Hébreux, où nous lisons un verset qui, à première vue, semble une contradiction complète à ce que nous croyons être la réalité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de la crucifixion de Jésus. Il dit ceci: Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. En vue de la joie. Vous voyez beaucoup de joie, vous, à Golgotha? Vous voyez des gens applaudir, joyeux, heureux à Golgotha? Non, on ne voit que des larmes. On ne voit que des douleurs, on ne voit que de la tristesse. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux a découvert cette dimension divine à la croix. La joie, Jésus a pu supporter tout cela en vue de la joie qui lui était réservé. Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, que Jésus ne permet pas à ses émotions de l'emprisonner. Il ne s'enferme pas dans les souffrances de son présent. Non, il place les souffrances de son présent dans le contexte de l'avenir, dans le contexte de l'éternité. Il ne se laisse pas emprisonner dans le temporel parce que lui, il vit dans l'éternel. Et ça, c'est l'exemple à suivre, n'est-ce pas? Son bonheur et le bonheur de chaque chrétien ne dépend pas seulement des circonstances de notre passé ou de notre présent, mais surtout de notre avenir. Un avenir glorieux. L'apôtre Paul dit de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, malgré les souffrances atroces à la croix, Jésus ne perd pas de vue cette joie qui lui est réservée. Au contraire, c'est justement parce qu'il choisit consciemment de ne pas permettre à ses souffrances, aussi douloureuses qu'elles soient, de cacher
cette joie qui lui est réservée, qu'il ait pu souffrir à la croix, mépriser l'ignominie, et qu'il a pu finalement s'asseoir à la droite du trône de Dieu. C'est la même chose qui permet à l'apôtre Paul, vous êtes d'accord, lui aussi il a souffert beaucoup d'épreuves, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il écrit? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Lui aussi, il place ses souffrances actuelles dans le contexte de l'éternité. Il ne minimise pas ses souffrances, il les reconnaît, il ne les supprime pas, il ne les renie pas, il les accepte, il les porte, mais il ne se laisse pas dominer par elles. Il ne permet pas à ses souffrances de remplir tout son horizon, d'hypothéquer sa vie, son comportement, ses propos, ses pensées, ses attitudes. Il regarde ses souffrances présentes à la lumière de la gloire à venir. Je dois admettre que cela, faire cela, ne change pas nécessairement quelque chose aux souffrances. Les souffrances restent aussi pénibles. Ce n'est pas la souffrance qui change nécessairement. C'est l'attitude vis-à-vis de ces souffrances qui change. Quand nous arrivons à gérer nos émotions de façon biblique, cela ne transforme pas les souffrances, mais ça transforme la façon dont nous les expérimentons. Et ça change, et si nécessaire, ça limite l'influence de nos émotions sur notre vie. Paul a découvert la vérité de ce que David avait chanté 1000 ans auparavant. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. C'est une vérité si simple mais si profonde, qui ne place pas sa confiance dans sa famille, ses amis, ses médecins, ses circonstances, son compte en banque, mais qui place sa confiance dans l'Éternel. Alors, regardons ce matin ces 5 émotions très fréquentes et nous allons les regarder à l'aide d'exemples bibliques. Comment gérer nos émotions dans la pratique? On va commencer avec la dépression. S'il y a des gens ici qui disent « Moi, ça ne me concerne pas, je ne suis jamais déprimé. » Merci, heureusement pour vous. Mais les statistiques montrent que 70% à peu près de tous les Belges souffrent de la dépression tôt ou tard dans leur vie. Donc, si vous n'avez pas encore été déprimé, ne désespérez pas. Vous savez que parmi tous les médicaments qui sont vendus, les antidépressifs sont en tête de la liste. Et même les grands du monde souffrent de dépression. Je suis en train de lire une biographie de Winston Churchill. Et dans ce livre, cet homme qui paraissait toujours fort et courageux, il confesse à des moments de désespoir qui, dit-il, se dressaient devant moi comme un chien noir, au point où il ne dormait jamais plus haut que le premier étage, parce que quand il se réveillait la nuit, tout dépressif, il avait toujours envie de se jeter par la fenêtre. Winston Churchill, incroyable! Dans la Bible, vous avez remarqué combien de grands souffrent de dépression? Qu'est-ce que vous pensez de Moïse? Je ne puis pas porter tout ce peuple, il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Ouh là là, il est dépressif, non? Connaissons l'histoire de Job. Mon âme et des goûters de la vie. Jérémie, malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître homme de disputes et de querelles pour tout le pays, tous me maudissent. Et qu'est-ce que vous pensez de Jonas? Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car la mort m'est préférable à la vie. C'est étonnant, ça. Vous savez, il ne prie pas cette prière quand il est dans le ventre du poisson. Il prie cette prière après le réveil de Ninive, après le succès. Mais une dépression peut frapper à n'importe quel moment, y compris des moments de succès et de victoire, c'est-à-dire quand nous l'attendons le moins. Et telle est l'expérience du prophète Élie. Jacques écrit concernant Élie, « Élie était un homme de la même nature que nous. » Je ne suis pas sûr si je suis 100% d'accord avec l'apôtre Jacques. Je ne suis pas comme Élie quand il est sur le Carmel en train de battre tout seul tous les prophètes de Baal. Mais je ressemble plus à Élie le lendemain. Quand il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il est dépressif, n'est-ce pas? Au point où il veut mourir. Alors, qu'est-ce qui plonge ce grand prophète qui vient de célébrer une des plus grandes victoires de la Bible, qu'est-ce qui le plonge dans une dépression si profonde? Savez-vous quoi? Il vient de recevoir une lettre d'une femme, Jézabel. Elle a envoyé un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne te fais de la vie, de ta vie, ce que tu as fait de la vie de chacun de mes prophètes. » Hier, Élie n'a pas eu peur quand il a confronté tout seul les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté sur la montagne de Carmel. Mais aujourd'hui, il a peur d'une seule femme. Comment ça se fait? Eh bien, parce que le message qu'il vient de recevoir de la reine Jézabel n'est que la goutte proverbiale qui fait déborder la vase, n'est-ce pas? C'est l'étincelle qui déclenche des émotions emmagasinées depuis 3 ans et demi déjà. Et il reçoit ce message à un moment et dans des circonstances où il est très vulnérable. Vous savez, on est très vulnérable juste après un succès ou une victoire. Quand j'enseignais des étudiants à l'école biblique, je leur disais, quand vous êtes jeune dans le ministère, quand vous débutez comme pasteur, ne prenez jamais votre jour de repos le lundi. Plus tard dans la semaine, mais pas le lundi. Parce qu'un pasteur travaille toute la semaine au climax du dimanche. Et quand ce dimanche est très béni, le lendemain, il tombe dans un trou. Hein? Et souvent, s'il a un jour de repos, un jour de congé, le lundi, le diable est prêt pour le prendre. Et vous savez, lutter spirituellement, tout le monde qui lutte spirituellement le sait, c'est fatigant. Émotionnellement, physiquement aussi, mais émotionnellement surtout, spirituellement. Et dans la dépression d'Élie, nous voyons des symptômes, plusieurs symptômes très classiques des déprimés. Ceux qui ont souffert la dépression, peut-être il y a des gens parmi nous qui sont déprimés actuellement, vous allez vous reconnaître dans Élie. D'abord, il se retire, il s'isole. Il se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Judas et il y laissa son serviteur. Au lieu de s'entourer de gens, il se retire. Et puis, il s'enfonce dans la pitié de soi-même et il se plaigne. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, demande à la mort en disant « C'est assez, Éternel, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée des prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Vous entendez sa pitié de lui-même là-dedans? Ses plaintes? C'est tout le faute des autres. Moi, je n'ai fait que du bien. Et eux, ils ne font que du mal. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Les enfants d'Israël, eux, ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Et comme beaucoup de dépressifs, il exagère quand même, non? Oui, mais quand on est dépressif, on exagère, surtout le négatif, n'est-ce pas? Ça arrive, c'est très classique. Je suis resté tout seul, il n'est pas du tout le seul. Il n'est pas du tout le seul. Il sait qu'il y a au moins encore 100 prophètes en vie, qu'il y a au moins 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et ce n'est pas la faute des Israélites qu'il se trouve seul. Il a fui. Il est parti tout seul. Il s'est séparé de son serviteur, de son propre gré. Et ce n'est pas « il » au pluriel qui cherche à lui ôter la vie. C'est « elle » au singulier. Vous le comprenez, il exagère. Il est dépressif au point même de vouloir mourir. C'est quand même frappant, ça. Élie est l'un de deux hommes seulement dans la vie, dans la Bible, qui n'est pas destiné à mourir. Et justement, l'homme qui n'est pas destiné à mourir, il veut la mort. Il gère sa dépression très mal, n'est-ce pas? Mais néanmoins, Dieu transforme sa dépression en victoire et réussite. Regardons comment. D'abord, Dieu sait où Élie est et comment il est. Et Dieu sait où nous nous trouvons et comment nous nous trouvons. Dieu connaît nos détresses, nos problèmes, nos chutes, nos désespoirs, nos luttes, nos défaites et nos dépressions. Encore une fois, David, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Frères et sœurs, et surtout frères et sœurs dépressifs, il n'existe aucun désert trop loin pour Dieu. L'apôtre Paul écrit « Aucune tentation » ou peut-être une meilleure traduction, épreuve. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est un texte clé pour tous les dépressifs. Si vous voulez juste pour un instant regarder en arrière à la porte de sortie, qu'est-ce que vous voyez au-dessus de la porte? Un petit monsieur, panneau vert et blanc, un petit monsieur qui fuit parce que l'église brûle, par exemple. Sorti de secours, n'est-ce pas? Et dans toutes les épreuves et dans toutes les dépressions, Dieu a préparé une sortie de secours. Suffit de le trouver. Et suffit de l'apprendre. Dieu a aussi préparé le moyen de sortir de la dépression pour Élie. Parce que contraire à ce que le monde fait souvent, Dieu ne brise point le roseau cassé et il n'éteint point la mèche qui brûle encore. Un dépressif pense toujours que c'est la fin. Il n'en sortira jamais. Il n'a plus d'avenir. Il n'a plus rien à attendre. La Bible dit que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que Dieu fait pour sortir Élie de sa dépression? Eh bien, premièrement, il fait quelque chose que l'Église ne fait pas souvent. Quand un chrétien est dépressif, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui boxons les oreilles avec des textes bibliques pour l'encourager. Ce n'est pas ça qu'il a besoin. Dieu envoie son ange à Élie, pas avec une Bible, pas avec un sermon, pas avec une étude biblique, mais avec un panier, avec un bon gâteau. Et ce n'est pas dit littéralement, mais un bon verre. Hein? Qu'est-ce que Dieu fait avec Élie pour le sortir de sa dépression? Il renouvelle ses forces. Élie se coucha, s'endormit sous un genêt. Voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Ce n'était pas encore du Beaujolais, mais... Il mangea, il but, et puis il se recoucha. Un dépressif est épuisé, souvent physiquement, mais certainement émotionnellement, et ou sentimentalement, et ou psychologiquement, et ou spirituellement. Et il a besoin de nouvelles forces, il a besoin d'une nouvelle vision, il a besoin d'une nouvelle confiance. Il lui faut du temps et il lui faut du repos. Et il a besoin d'aide parce que il est très difficile de sortir d'une dépression tout seul. Et qui va aider les dépressifs? Nous. Pas en les condamnant, mais en les aimant. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » C'est ce que ressentent beaucoup de dépressifs. Un avenir, non, c'est trop long, trop difficile. Je n'y arriverai jamais. Élie se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il mange un morceau de ce gâteau et il marche 40 jours et 40 nuits. Nous aimerions tous connaître les ingrédients. N'est-ce pas? Je vais résister à la tentation de spiritualiser le gâteau. Mais il y a quand même un principe là-dedans. Il repose, il renouvelle ses forces, Dieu le nourrit et il entreprend cette marche. Et quand les forces d'Élie sont renouvelées, il est prêt pour le deuxième pas vers la sortie de sa dépression. Il marche à 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Horeb est une adresse très spéciale pour les Juifs, n'est-ce pas? Parce que c'est à Horeb que Dieu s'est révélé à son peuple. C'est à Horeb que Dieu a parlé à son peuple. C'est à Horeb que Dieu leur a donné les 10 commandements. Et Dieu amène Élie à Horeb, c'est-à-dire à l'endroit où il peut lui parler. Ce n'est pas là, dans le désert, sous le genêt. Un désert n'est pas une bonne adresse pour un chrétien, n'est-ce pas? Il l'amène à la montagne. Et là, Élie entra dans la caverne, y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et puis nous lisons ceci. « Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. » L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une murmure, un murmure doux et léger. Feu du ciel, Élie l'a déjà vu. Ça ne va plus l'impressionner. Maintenant, Dieu parle à son cœur. La voix douce de Dieu dans son cœur. Et l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin. » Élie a voulu démissionner. Dieu n'a pas accepté sa démission. Et au lieu d'accepter sa lettre de démission, Dieu lui donne un nouveau contrat. Un dépressif vit dans le passé et le présent, ses yeux fermés à l'avenir. Sortir d'une dépression commence quand on est décontracté, quand on renouvelle ses forces et quand on fixe ses yeux sur l'avenir. Dieu lui dit, reprends. Tu as un avenir. Et un enfant de Dieu a toujours un avenir. C'est le mensonge du diable quand il dit c'est fini. Jamais. Pour un enfant de Dieu, nous avons un avenir formidable. Et quel est dans ce nouveau contrat? Eh bien, tu iras jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Une nouvelle commission. Qu'est-ce qu'il doit faire? Oindre un roi? Oindre un général? Et préparer son successeur. Et puis, Dieu le prépare à la plus merveilleuse expérience de toutes, son ascension au ciel, sans mourir, dans un char de feu et des chevaux de feu, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Est-ce qu'il est sorti de sa dépression? Est-ce que la thérapie de Dieu a réussi? Eh bien, 9 siècles plus tard, ce même prophète Élie parle en présence de 3 disciples de Jésus, avec Jésus lui-même et avec Moïse sur la montagne de la Transfiguration. Et d'ici peu, selon le livre de l'Apocalypse, ce même Élie reviendra sur la terre comme témoin invincible de l'Éternel pendant la période des ténèbres les plus profondes dans l'histoire de notre planète. Élie, dans sa dépression, pense que sa vie, son ministère sont terminés, qu'il n'a plus d'avenir. Mais Dieu transforme sa dépression, dans une vie et un ministère éternel. Si vous avez suivi dans la Bible, vous avez peut-être identifié le moment exact où Élie sort de sa dépression. J'ai lu toute une série de textes, mais j'ai sauté d'un verset, et je l'ai sauté d'exprès. Et c'est le verset qui dit, quand l'ange vient et appelle Élie, il se met à l'entrée de la caverne, et Dieu lui parle, quand Élie l'entendit, ce murmure doux et léger, la voix de Dieu. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Il se met à l'écoute. Plus à l'écoute seulement de ses circonstances, plus emprisonné par son passé, mais il se met à l'écoute de Dieu. Un enfant de Dieu fait un grand pas vers la sortie d'une dépression à partir du moment qu'il arrête d'avoir pitié de soi-même, d'exagérer, de rester enfermé dans son passé, de se mettre à l'écoute des promesses de Dieu. On les écoute, les promesses de Dieu, on les croit, les promesses de Dieu, et puis on les vit, les promesses de Dieu. J'ai passé la plupart de mon ministère dans le néerlandais, en Flandre. Et tous les Flamands ont entendu parler d'un grand évangéliste hollandais, juste après la guerre, un homme qui s'appelait Johannes de Heer. Je ne l'ai jamais connu personnellement, mais mes aînés m'ont dit, dans chaque réunion d'évangélisation, il tenait sa Bible en haut comme ça. Il disait, vous lisez ce qui est marqué, vous croyez ce qui est marqué, et vous expérimentez ce qui est marqué. Et c'est ce que fait Élie. Il écoute la parole de Dieu, les promesses de Dieu, il les croit, et puis il les expérimente. Voilà comment gérer la dépression. Pas besoin d'énormément de pilules pendant le reste de sa vie. Je n'ai rien contre les pilules. Les médicaments peuvent être des aides à la guérison divine, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça qui guérit. Pour un chrétien, c'est quand nous sortons de notre prison. Une dépression est toujours une prison. En permettant à la lumière de Dieu d'entrer là-dedans. Passons à la deuxième émotion. Comment gérer les soucis? Vous avez des soucis? Personne n'a des soucis. Nous, en Flandre, on a des soucis. À Anvers surtout, il s'appelle Monsieur de Weber. On ne va pas entrer dans la politique, mais nous avons des soucis. Bien sûr que tout le monde a parfois des soucis, n'est-ce pas? Comment gérer ces soucis? La Bible dit, et c'est encore une fois, si j'ai bien compris le français, un autre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous. Ne pas attendre que les autres les prennent, déchargez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous enlevez, n'est-ce pas? Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Ce sont des ordres. Je ne sais pas ce que vous pensez, moi je pense que c'est plus facile à dire que de faire. N'est-ce pas? Facile à dire, déchargez-vous de tous vos soucis. Surtout si vous, vous n'avez pas de soucis, ce n'est pas difficile. L'apôtre Paul écrit, « Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. » Moi aussi. Je peux dire amen à l'apôtre Paul. J'aimerais aussi être sans inquiétude. Mais la Bible ne promet pas que la vie, même la vie des enfants de Dieu, soit toujours rose.
On entend parfois des prédicateurs qui disent un chrétien n'a jamais de soucis. Jamais malade. Jamais pauvre. Toujours victoire. Moi, je soupçonne que ces prédicateurs-là lisent une autre Bible. Pierre qui dit « Déchargez-vous de tous vos soucis » écrit aussi dans la même lettre. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » La différence entre les chrétiens et les non-chrétiens, les croyants et les non-croyants, n'est pas que les uns souffrent tandis que les autres ne souffrent pas. Au contraire, la Bible dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En d'autres mots, les dangers sont les mêmes pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Jésus va plus loin, il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Ah, c'est une mauvaise nouvelle. Vous regrettez déjà d'être venu ce matin, n'est-ce pas? Vous auriez mieux fait de faire la grâce matinée. Vous ne partez pas encore. Prenez courage, dit Jésus. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et l'apôtre Paul écrit ceci. Nous savons que toutes choses, pas certaines choses, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelles choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Des bénédictions? Des joies? Des réussites? Des victoires? Non. La liste de Paul de ces toutes choses, tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée. Oui, mais tout ça contribue au bien, oui, de celui qui aime Dieu. Nous ne devons pas avoir peur d'être submergés par toutes ces choses quand nous aimons Dieu. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, pas par nous-mêmes, mais par celui qui nous a aimés. Et Paul dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Exemple, 2 Rois 4. Nous lisons l'histoire d'une pauvre veuve qui a de très grands soucis. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, disant, « Son serviteur, mon mari, est mort. Et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Une veuve qui est à bout de ses moyens. Au temps biblique, les veuves étaient très vulnérables. Il n'y avait pas de sécurité sociale pour les aider. Et le fait de devenir veuve était même parfois considéré comme une punition divine pour un péché quelconque. Une veuve ne pouvait compter ni sur l'aide matérielle, ni sur la sympathie. Si elle n'avait pas des enfants, elle était souvent réduite à la mendicité. La veuve de cette histoire a des enfants, deux fils, mais il semble que ses fils soient encore trop jeunes pour aller travailler, et que les fils sont donc toujours à charge de la maman. Et la maman n'a plus d'argent. Pire, elle a des dettes qu'elle ne sait pas payer. Et le créancier menace de venir prendre ses fils pour en faire ses esclaves. Cette veuve est désespérée. Vous la comprenez? Dans ses souliers, on serait désespéré aussi. Alors, elle ne sait plus quoi faire. Seul espoir qui lui reste, le pasteur. Ah oui, toujours le pasteur. Lui va l'aider. Son mari qui est décédé était aussi un homme de Dieu, collègue du prophète Élisée. Alors, elle espère que le pasteur l'aidera. Élisée a sa dernière chance. Ton serviteur, dit-elle à Élisée,
Mon mari est mort et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et faire ses esclaves. » Quelle leçon spirituelle est-ce que nous devons tirer de cette situation? Qu'on doit s'adresser au pasteur quand on a des dettes qu'on ne sait pas payer? Je ne connais pas le compte en banque de votre pasteur, mais vous pourriez être déçu, n'est-ce pas? Le prophète Élisée n'a pas de quoi payer les dettes de la veuve. Il vient d'être pasteur, il vient d'être prophète, et tous les pasteurs savent que au début, le salaire d'un pasteur n'est pas trop élevé. Il ne peut pas payer les dettes de la veuve. La veuve présente sa situation à Élisée. « Ton serviteur, mon mari est mort, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. » Et Élisée lui répond, « Que puis-je faire pour toi ?»« Mais enfin, Élisée, est-ce que c'est nécessaire que tu lui demandes ça ? C'est clair, n'est-ce pas ? Faut payer ses dettes. Elle a besoin de miracles. Alors, tu es prophète, opère un miracle pour elle. Eh bien, Élisée est prophète, pas magicien. Il y a des membres d'église qui pensent que le pasteur est magicien. Encore une fois, vous risquez d'être déçus, n'est-ce pas? Pasteur, c'est prier, prêcher, enseigner, faire des visites, organiser, consoler, baptiser, faire des baptêmes, célébrer des mariages, présider des funérailles, mais il n'a jamais appris à opérer des miracles, parce que c'est Dieu qui fait des miracles. Que puis-je faire pour toi? S'il ne peut pas opérer un miracle pour la pauvre veuve, qu'est-ce qu'il peut faire alors pour changer sa pauvreté en prospérité, son désespoir en espoir, sa misère en bonheur? Que puis-je faire pour toi? Avant que la veuve n'ait le temps de répondre à sa première question, Élisée lui pose une deuxième. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Oh, c'est quand même étrange, je viens de lui dire qu'elle n'a plus rien. Il n'a pas bien écouté, ou alors il n'a pas bien compris. Elle dit qu'elle n'a plus rien, et lui, il demande ce qu'elle a à la maison. Eh bien, une première leçon sur la gestion des soucis. Les soucis se concentrent presque toujours sur ce qu'on n'a pas. Élie concentre la veuve sur ce qu'elle a. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Sa maison est probablement une petite maison d'argile, une seule pièce, sol de terre battue, toit plat, de terre ou de boue sèche. Elle n'a probablement que quelques meubles, une caisse pour ses provisions, une marmite, quelques ustensiles de cuisine, quelques vêtements. Mais sa réponse fait comprendre qu'elle n'a même plus cela. Ta servante n'a rien du tout à la maison, sauf une cruche d'huile, une cruche d'huile d'olive. Est-ce qu'elle a encore des dettes? On comprend qu'elle a des soucis. Elle n'a qu'une cruche d'huile, des dettes, des soucis, mais sa cruche d'huile, gérée selon la parole de Dieu, va devenir le secret de sa victoire sur ses soucis. Ta servante n'a qu'une cruche d'huile. Élisée lui dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ce sont des étranges instructions pour un miracle, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce sont des instructions impossibles. Comment pourra-t-elle remplir des vases entières alors qu'elle n'a qu'une petite cruche d'huile? Eh bien, la veuve va apprendre deux leçons spirituelles essentielles pour vaincre le souci. Premièrement, elle doit voir sa situation comme Dieu le voit. Deuxièmement, elle doit se concentrer sur ce qu'elle a et pas sur ce qu'elle n'a pas. Ce sont des leçons que les disciples de Jésus ont aussi dû apprendre. Vous connaissez l'histoire de la multiplication des pains et des poissons ? La foule a été avec Jésus pendant 3 jours. Et alors il dit à ses disciples, il ordonne à ses disciples de nourrir la foule. 5000 hommes plus femmes et enfants. Et comme on avait des familles nombreuses, on arrive facilement à 25 000 personnes. Les disciples se réunissent en comité. Toujours une mauvaise chose, ça. Quand Dieu nous donne un ordre, ce n'est pas quelque chose à discuter. C'est quelque chose à obéir. Ils se réunissent en comité. Et puis, leur réponse, procès-verbal de leur réunion, ce lieu est désert. Ce n'est pas le bon endroit. Oh, je travaille en Belgique depuis presque 50 ans. Combien de fois est-ce que je n'ai pas entendu « La Belgique est un pays dur pour l'Évangile. C'est désert ici. Nous ne sommes pas le Brésil ou l'Afrique ou là où il y a des grands réveils. » Et l'heure est déjà avancée. Vous avez déjà entendu ça? Les miracles, c'était pour le temps de la Bible. Pas pour aujourd'hui. Et puis, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Ça doit être les trésoriers qui disent ça. N'est-ce pas? On n'a pas assez de sous. Comment osons-nous dire, quand Dieu nous lance un défi de faire quelque chose de grand pour lui, comment osons-nous répondre, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas assez de sous? Un des disciples, André, a quitté la réunion de comité pour voir si quand même il pourrait trouver un peu à manger. Et en effet, il a trouvé. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais il méprise cela. Qu'est-ce que cela pour tant de gens? En d'autres mots, les disciples répondent à Jésus que l'ordre qu'il leur a donné, impossible à obéir. Mais Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, levant les yeux au ciel, rendit grâce. Puis il rompit les pains, les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Et tous mangèrent et furent rassasiés. Et puis Jésus dit à ses disciples, « Maintenant vous ramassez ce qui reste, j'aimerais voir leur visage. » Ils ont dit que c'était impossible. Et ils ramassent 12 paniers, pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ce qui reste est 1000 fois plus ce qu'ils ont commencé avec. Quelle est la différence entre Jésus et les disciples? Jésus a les mêmes 5 petits pains, et je m'excuse de le dire, hein, mais si ces 5 petits pains et 2 petits poissons ont été dans la poche d'un jeune garçon qui a joué avec ses amis toute la journée, ces 5 petits pains sont plutôt 5 millions de miettes. Et ces 2 petits poissons qui ont été toute la journée dans un climat très chaud ont déjà une petite odeur, pas trop appétissant. On comprend que André les méprise, Jésus ne les méprise pas, il les prend en main. Les disciples se sont concentrés sur ce qu'ils n'ont pas. Jésus se concentre sur ce qu'il a. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Nous commençons à vaincre nos soucis dès que nous nous arrêtons de nous plaindre de ce que nous n'avons pas, ou de ce que nous n'avons plus, ou de ce que nous ne sommes pas, ou de ce que nous ne sommes plus, et nous commençons à nous concentrer sur ce que nous avons. Et dès que nous confions la gestion du peu que nous avons, du peu que nous sommes au Seigneur, dès que nous les mettons nos 5 petits pains ou nos 5 millions de miettes et les 2 petits poissons entre les mains du Seigneur, c'est le commencement de la fin de nos soucis. Déchargez sur lui, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même il prend soin de vous. Va demander au dehors des vaches chez tous tes voisins, des vases vides, n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. La veuve n'a qu'une cruche d'huile, mais avec ça, elle doit remplir toute une maison pleine de vases. Encore une fois, un contraste. La veuve parle de petites cruches au singulier. Le prophète parle de grandes vases au pluriel. Petite cruche d'huile, à peu près 20 centilitres. Vase, 100 litres. Pour se décharger de ses soucis, il faut qu'elle les voie comme Dieu les voit. Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, pas un petit nombre. La veuve doit commencer à voir grand. Encore une fois, quand nous mettons nos soucis, aussi grands qu'ils nous semblent, dans le contexte de l'éternité et de la grandeur de Dieu, nos soucis rétrécissent, n'est-ce pas? Un verset que j'ai déjà lu, j'estime, l'apôtre Paul, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors va demander des vases, pas un petit nombre. Vous êtes d'accord? La grandeur du miracle que la veuve va recevoir va dépendre de la grandeur de sa vision. Au plus de vases qu'elle ressemble, au plus grand va être son miracle. Et frères et sœurs, la grandeur de ce que Dieu fait pour nous et dans notre vie dépend de la grandeur de notre vision. Je me rappelle, je n'étais pas longtemps en Belgique et j'ai assisté à une réunion de prière dans une église, je ne vous dirai pas laquelle, et je n'oublierai jamais une petite dame qui se levait, une dame d'un certain âge, et elle prie un peu ainsi. « Seigneur, je te remercie pour ma petite église. Je viens ici depuis des dizaines d'années. Elle a toujours été petite. Et je sais qu'elle sera toujours petite. » Et elle continuait comme ça. Et moi, tout jeune, missionnaire, voyais grand. Je voyais toute la Belgique se convertir. Et cette petite dame, mon église va toujours rester petite. Vous savez ce qui est une église réussie? C'est une église qui doit chaque fois continuellement abattre ses murs pour agrandir. Vous avez encore du terrain, regardez, tout un champ. N'est-ce pas? Va demander en dehors des vases, pas un petit nombre. Si nous lui apportons une petite vase, il ne pourra y verser que quelques gouttes d'huile. Si nous apportons une grande vase, il peut nous donner beaucoup plus. Si nous lui donnons 10% de notre vie, il ne pourra nous donner que 10% de la bénédiction qu'il nous a réservée. Mais si nous lui consacrons entièrement à lui, il pourra nous donner tout ce qu'il nous a réservé. Va demander des vases, pas un petit nombre. S'il vous plaît, frères et sœurs, ne limitons pas Dieu par l'étroitesse de notre vision. Dieu n'est pas pauvre. Vous êtes d'accord? Dieu n'est pas pauvre. Il dit, tous les animaux des forêts sont à moi, tous les bêtes des montagnes par milliers. Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dieu n'est pas pauvre. Il n'est pas limité. La prochaine chose que la veuve doit faire pour se décharger de ses soucis, c'est pas seulement voir grand, mais elle doit participer activement à son miracle. Quand on voit grand, on expérimente grand. Elle doit ramasser des vases vides en préparation du miracle de la multiplication. Sa participation n'est pas passive, mais active. Elle ne se limite pas à prier, croire, elle doit aussi agir. Et beaucoup de chrétiens prient et croient sincèrement, mais ils restent courbés quand même par leurs soucis, parce qu'ils n'agissent pas selon ce qu'ils prient et ce qu'ils croient. J'ai lu la lettre d'un jeune homme qui écrit à sa petite amie. « Je t'aime tellement. Tu ne peux pas savoir combien je t'aime. Je traverserai des montagnes pour être à tes côtés. Je franchirai les fleuves les plus profondes pour venir vers toi. Rien ne pourrait m'empêcher. Les tempêtes, les tremblements de terre, les tsunamis pour venir chez toi. PS, jusqu'à vendredi s'il ne pleut pas. » Vous avez compris, n'est-ce pas? Souvent, il y a un gouffre entre ce que nous disons, ce que nous prions, ce que nous croyons et ce que nous faisons. Et alors nous nous étonnons de ce que nous ne voyons pas de miracle. La veuve doit agir, elle doit ramasser des vases et puis elle doit remplir ces vases. Elle a maintenant sa maison remplie de vases. Qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? Croire que toutes ces vases vont se remplir tout seuls? Attendre jusqu'à ce que ces vases vides se remplissent? La parole du Seigneur ne lui a pas dit « crois ». Attends, la parole de Dieu lui a dit « verse ». Va demander des vases vides, pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras ta porte sur toi, sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. La veuve a compris, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et elle versait. La traduction néerlandaise dit « elle continuait à verser ». Alors elle verse. Vous la voyez faire, là, avec sa petite cruche, 20 centilitres. Ici, une vase, 100 litres. Elle verse. Elle continue à verser. Jusqu'à ce que la vase soit pleine. Puis elle regarde dans sa petite cruche. Il y en a encore. Il y a toujours. Deuxième vase. Troisième vase. Et ainsi de suite. Comment est-ce que 20 centilitres d'huile puissent se multiplier dans des centaines, des milliers de litres? Parce que notre Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Petite constatation, Dieu n'a pas besoin de grand-chose pour faire un miracle. Samson n'a qu'une mâchoire d'âme, mais avec ça, il abat 1000 Philistins. David n'a qu'une fronde et 5 petits cailloux, mais il tue Goliath. Jésus n'a que 5 petits pains et 2 petits poissons, mais il nourrit 25-30 000 personnes. Et la veuve n'a qu'une cruche d'huile, mais elle remplit des vases. Alors je vous pose une question. Quand est-ce que l'huile s'arrête? Quand il n'y a plus de vase. L'huile s'arrête seulement quand tout est rempli. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore une vase. » Il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Aussi longtemps que ses fils continuent à lui présenter des vases vides, l'huile continue à couler. Quand nous sommes en souci, apportons notre cruche d'huile au Seigneur. Après que toutes les vases soient remplis, la veuve alla rapporter à l'homme de Dieu. Il dit, « Eh bien, maintenant, va vendre l'huile, paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Sa prière est exaucée, sa foi est exonérée, son avenir est assuré. Frères et sœurs, quand nous sommes en souci, suivons son exemple. Apportons nos soucis, nos besoins au Seigneur, accordons-lui la gestion de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous possédons. Coopérons avec lui. Regardons nos soucis comme lui les regarde. Concentrons-nous sur ce que nous avons et pas sur ce que nous n'avons pas. Avançons dans la foi, obéissons à ses commandements et expérimentons sa puissance miraculeuse. Pause. Amen.